Mireille Kanyang.
Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Ce 5 février, l'on célèbre le 35e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. La charte adoptée en 1991, le LUCOM estime que la sincérité sur ce qui se passe dans le pays renforce cette unité. Trois personnes sont au cachot de police de Mugamba, c'est en commune Matana, et c'est pour vol de chèvres. En international, une quarantaine de délégations, dont plusieurs africaines, étaient attendues ce 4 février à Washington pour un sommet sur les minerais critiques. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Wiman.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'OLUCOM, estime qu'il existe encore des obstacles empêchant la consolidation de la Charte de l'Unité Nationale. Gabriel Ufiri, président de l'OLUCOM, l'a déclaré ce mercredi lors d'une conférence de presse. C'est au moment où ce 5 février, l'on célèbre le 35e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Selon le président de l'OLUCOM, certains signes montrent que l'Unité Nationale n'est pas encore une réalité, notamment le partage inéquitable, dit-il, des richesses nationales. Suivez.
La Charte a été acceptée par les Burundais, mais vous avez vu qu'après, je crois, 2 ans, 91-93, la guerre civile a éclaté au Burundi. D'où, en fait, ceux qui ont initié l'unité nationale ne recroyaient pas, à vrai dire, c'était une manière de masquer. D'où, je voudrais revenir aux principaux défis de la mise en œuvre de la charte de l'unité nationale. J'ai pris des éléments essentiels. Sera où même se trouve le point central, le premier élément pour nous qui est très très important dans ce pays, qui est une menace grave de l'unité nationale, de la cohésion, c'est un manque de débat sincère sur des questions qui entrent au pays. Donc, il faut qu'il y ait un espace de libération de la parole, bien évidemment d'une manière digne, d'une manière sincère, d'une manière... Le deuxième élément, aussi très important, en matière de protection de l'unité nationale, c'est la production. Dans un pays où il y a la misère, le gâteau national est souvent mis dans les mains d'une poignée d'individus. Le troisième élément, c'est la répartition de la richesse nationale. La richesse nationale n'est pas partagée. Un quatrième élément essentiel qui menace l'unité nationale, ce sont les injustices de tout genre, des injustices sociales, le recrutement, où on ne donne pas un travail sur base de mérite, mais plutôt sur base des critères partisans. Un autre élément, qui est le cinquième, qui menace l'unité nationale, c'est renaissance non contrôlée. Au niveau de l'OLUCOM, nous voyons que le fait de ne pas contrôler les renaissances, il est clair que c'est une menace à la cohésion sociale.
Le président de cet observatoire indique que l'un des éléments qui renforce l'unité est la sincérité sur ce qui se passe dans le pays afin que des solutions soient trouvées. Suivez-le encore une fois.
Pour l'OLUCOM, il est clair que je vous ai parlé de plusieurs éléments qui menacent l'unité, dont qui doit nous inspirer, qui doit inspirer les dirigeants, non pas seulement pour le dire en public. Un dirigeant ne va pas dans l'opinion pour murmurer, pour se lamenter. Il va donner un message à l'opinion publique, juste pour donner des solutions. Arder, lui, il donne des solutions. Il ne donne pas, il ne peut pas se prononcer comme Rufiri est en train de le dire, ou n'importe quel citoyen. Non. Lui, quand il apparaît à la télé, c'est juste apparaître avec une solution. Il y a des éléments éthiques qui doivent se retrouver chez les hommes politiques.
Et le contentieux opposant l'ancien député Agathon Rwasa et le parti CNL quant à la direction de ce parti piétine, dit Agathon Rwasa. C'est au moment où un rendez-vous avait été fixé fin décembre de l'année dernière. Il appelle les instances judiciaires à se ressaisir. Suivez ses explications.
Le dossier piétine, ou tout au moins les institutions juridiques piétinent, parce que effectivement, nous nous attendions à ce qu'une séance ait lieu au mois de décembre. Voilà, nous sommes déjà au mois de février, donc 2 mois de plus encore. On ne sait pas quand l'appareil judiciaire se ressaisira pour en fait traiter cette question. Comment se fait-il que des gens qui ont un contentieux soient pendant devant la justice autant d'années sans qu'il n'y ait une seule audience où les deux parties sont confrontées alors que tout le monde se trouve sur place? Est-ce le temps qui manque à l'appareil judiciaire ou c'est la volonté qui leur manque tout simplement? Ça fait même peur que cette institution qui devrait cimenter cette unité-là manque à ses engagements. C'est dommage que l'appareil judiciaire, qui devrait en quelque sorte être à leitmotiv pour les uns et les autres de cette recherche de la paix et de l'unité, puisse agir avec une inertie inquiétante. C'est vraiment dommage, mais on espère que tôt ou tard, la justice se relèvera et que les uns et les autres pourront être entendus et servis. Et sinon, c'est vraiment déplorable la situation judiciaire. D'ailleurs, même le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, se plaint qu'à plus de 80% que les justiciables ne sont pas satisfaits de la prestation de cet appareil judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'effectivement ils aient la bonne cote au sein de la population et devant celui qui les nomme?
Le contentieux a engagé auparavant 2 camps, mais on a entendu dans cette affaire un 3e camp. Mm-hmm. Vous en êtes au courant? Est-ce que ça ne fait pas en quelque sorte traîner cette affaire en justice?
Et après, j'ai même vu quelqu'un que je ne connaissais même pas, en certain janvier, qui croit être lié avec ce dossier, alors qu'il n'a jamais fait partie du parti CNL. Et puis, dans ce qu'il prétend, il dit avoir été aux Nations Unies pour demander de l'aide au profit du gouvernement burundais. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec le CNL. Je ne sais pas si ça ne serait pas une manipulation pour que cette affaire perdure. Je ne vois pas d'autres partis, il n'y en a que deux. Il y a ceux qui ont été engosés pour prétendre de mettre les organes du parti, et c'est ça l'objet du conflit. Il n'y a pas 3 partis dans ce contentieux.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Des bâtiments présentant déjà des signes d'effondrement et le vol sont les principaux défis qui hantent les déplacés de suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Des déplacés installés à Mutambara dans la commune de Rumonge et ceux qui se sont exprimés craignent pour leur sécurité et demandent l'intervention de l'administration pour la construction des bâtiments durables ainsi que pour le renforcement des mesures de sécurité. Jean de Dieu, il a causé de retour de Rumonge.
Arrivé à ce site abritant les victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika, l'on voit des bâtiments déjà inclinés et d'autres déjà soutenus par des supports au moment où d'autres sont déjà abandonnés. Les habitants disent craindre pour leur sécurité.
Le premier défi qui nous hante est que nos bâtiments sont en état de délabrement avancé. Personnellement, j'ai failli perdre ma famille après le passage du vent. Nous ne pouvons pas y retourner car les termites ont déjà ravagé les arbres qui soutenaient nos maisons en général. On s'attend au pire parce que les arbres étoiles peuvent s'écrouler à tout moment.
À côté de cet état de bâtiment, il rapporte qu'il craigne le vol récurrent.
Nous avons un problème des voleurs qui profitent de l'état de nos maisons. Ils nous volent et nous craignons qu'ils puissent venir nous tuer car il est facile d'entrer à l'intérieur de nos maisons. Comme le gouvernement a déjà pensé à nous, en nous octroyant ces maisons, nous nous demandons qu'ils nous construisent aussi des maisons durables.
Face à ces phénomènes, le chef de ce site, Audacienne Hakizimana, dit avoir relayé ses soucis à l'administration pour l'intervention, mais que la réponse n'est pas encore donnée.
Nous transmettons cette situation de vol aux autorités administratives qui, à leur tour, nous répondent d'assurer notre propre sécurité. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne sommes pas en mesure de bien le faire. Nous avons également signalé l'état de nos maisons, mais nous n'avons pas de réponse jusqu'à ce jour.
Selon son responsable, ce site abrite 185 ménages composés de 1340 personnes.
Et en réaction, l'administration communale de Lumonge dit être au courant de cette situation. Le chef de service inclusion genre, Lidwine Ninina Hazwe, dit qu'il sensibilise plutôt ses déplacés à fabriquer des briques et pour faire face à ce problème, à ce phénomène de vol, et promet que la commune compte installer une position de police dans les plus brefs délais. L'Institut national de la protection sociale, INSS, salue la contribution des médias en général et celle des journalistes formés en matière de protection sociale en particulier, dans la promotion et la sensibilisation à la matière. Lors d'un atelier d'évaluation des réalisations de ces journalistes mardi, Eric Boukeye-Douchaka, directeur des études au sein de cette institution, a affirmé que des actions de sensibilisation menées ont interpellé les employeurs afin de faire immatriculer leurs travailleurs. De leur côté, les responsables des médias ont plaidé pour plus de moyens financiers en vue d'une bonne mise en œuvre de ce projet. Une demande est bien reçue par l'INSS, a-t-il précisé Omer Douayo.
Lors de cet atelier, Eric Boukeye-Douchaka, directeur des études à l'Institut national de sécurité sociale, a indiqué que les journalistes ont bien accompli leur mission de sensibilisation.
Notre appréciation est très satisfaisante car les médias ont beaucoup travaillé dans la vulgarisation du droit en rapport avec la protection sociale. Grâce à leur action, beaucoup d'employeurs ont été affiliés à l'INFS et des travailleurs ont été immatriculés.
Certains responsables des médias ont demandé un appui financier afin que ce projet soit mené efficacement.
C'est un souhait qu'on voudrait plutôt exprimer par rapport au partenariat en cours. Il s'agit de dire que la production des émissions en rapport avec la protection sociale, c'est aussi un travail qui demande beaucoup de moyens au niveau des radios, télévisions. Donc le souhait est que l'INSS et même le CNC puissent y engager beaucoup de moyens pour soutenir les médias.
Une demande acceptée par l'INSS. Eric Boukeye-Douchaka, directeur des études au sein de cette institution, affirme que ces moyens sont prévus.
On comprend que pour aller sur le terrain, les médias ont besoin de moyens financiers, de besoins matériels. Nous sommes engagés à leur donner des formations en rapport avec justement la protection sociale et de les doter de moyens de travail. Dernièrement, on a accordé un don d'ordinateur pour les médias partenaires. Et même dans le cadre de cette année, on envisage encore une fois faire un geste. On est en train de se concerter avec le CNC au niveau interne. Et nous avons doublé la stratégie d'aller chercher les partenaires, les ambassades et autres partenaires financiers qui pourront nous aider à vulgariser justement le droit à la protection sociale.
Ce responsable précise qu'ils travailleront en collaboration avec le Conseil national de la communication CNC dans la recherche et collecte de ces fonds.
Je vous l'avais annoncé en titre, trois personnes dont une femme sont locataires du cachot de la police à Mugamba en commune Matana de la province Burunga. Deux sont détenues depuis ce lundi et une autre depuis ce mardi. Ces personnes originaires de la colline Mota de Mugamba sont accusées d'avoir volé trois chèvres qu'elles ont même abattues et cachées dans leur maison pour revendre la viande. L'administrateur de cette commune salue le travail de la quadrilogie qui les a attrapées en possession de la viande et de ces animaux tués. Glorieuse Niyubahwe demande à la justice de faire convenablement son travail pour que ces présumés auteurs de ce vol soit puni conformément à la loi une fois jugé coupable. Une information que nous devons à notre correspondant Zenon Nzambimana. En international, avant de clore cette édition, l'administration américaine attendait ce mercredi 4 février une quarantaine de délégations à Washington pour un sommet sur les minerais critiques, une réunion organisée par le secrétaire d'État américain et à laquelle doit assister une délégation congolaise venue de Kinshasa, arrivée à Washington avec le président de la RDC. D'autres délégations venant de Guinée et du Kenya étaient également attendues pour ce sommet.
Parle, rassure-moi.
Les propos et la diffusion de messages haineux engendrent souvent d'autres propos similaires quand ceux qui en sont la cible répliquent à leur tour par des paroles destinées à pointer du doigt l'autre camp. Cependant, certaines personnes rencontrées sur la colline et dans la zone de Nega expliquent que suite à la guerre qui a éclaté en 1988 à partir des paroles haineuses, elles ont compris qu'il n'y a aucun avantage à échanger des insultes avec ceux qui utilisent ce langage. Hélène Mawenimana, chef du département de communication et journalisme à l'Université du Burundi, souligne la nécessité de multiplier les enseignements visant à combattre ces discours afin que tout le monde comprenne les conséquences de leur utilisation. On est là, mucho.
Zombuko, tirabibugwango, ushika yaho n'umwana wawe yavutse ibyo bintu adahara tabizi akacaguma abyumva.
Abantu dufise umutwe umeze kimwe usanga barakomerekejwe nyene
n'ibyo. Certains habitants de la colline et de la zone Nega dans la commune de Kirundo affirment avoir compris que les discours incitant à la haine sont une source de conflits et de violence au sein de la communauté, surtout en se référant à la guerre qui a eu lieu dans cette zone en 1988. Selon eux, ce conflit qui a été fondé sur des considérations ethniques avait commencé par des paroles sémant la haine. Ils expliquent qu'après les différentes formations reçues de la part de diverses organisations et autorités, ils s'efforcent désormais d'éviter tout ce qui pourrait les replonger dans les conflits du passé. Ainsi, ces propos n'ont plus de place dans leur milieu et toute personne qui tenterait de les raviver serait considérée comme s'étant trompée.
Il peut le dire parce que peut-être c'est son niveau d'intelligence, sans aucune rancune. On a vu le pire dans le passé. Donc aujourd'hui, rien ne nous menace. Surtout que la CVR est venue nous fortifier. Nous cohabitons bien.
Si une personne vient vers moi avec des propos haineux, je lui montre qu'elle est dans l'ignorance, car j'ai compris que toute personne doit être respectée.
Le chef de la colline de Nega, Désiré Sindaïgaya, indique qu'ils ont entrepris de déconstruire tout ce qui pourrait ramener des discours de haine, comme le refus de voir des familles se rassembler selon des critères ethniques lors des commémorations du 15 août, date à laquelle la guerre avait commencé.
Des gens s'asseyaient dans des endroits précis sans rien faire. C'est là qu'est naissaient ces propos. Aujourd'hui, il n'y en a plus car cela a été interdit. Sinon, si jamais l'on constate qu'une personne a des mauvaises intentions, on l'arrête, on la remet aux autorités. Mais souvent, on la conseille d'abord en lui disant que c'est du passé et qu'aujourd'hui, nous n'en faisons qu'un.
L'experte en communication, Hélène Mawenimana, estime que pour que tout le monde comprenne les conséquences de la propagation de discours haineux, il faudrait multiplier les formations auprès de différentes catégories de personnes, y compris les leaders.
Chaque message de haine entraîne souvent une réponse hostile qui elle-même génère d'autres messages haineux et ainsi de suite. Ce cercle vicieux crée un climat de tension et d'insécurité rendant difficile la communication pacifique et la confiance entre groupes sociaux.
Quant à ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, il leur conseille d'éviter de diffuser des messages susceptibles d'encourager les échanges de propos haineux.
Point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimane qui a assuré la mise en onde. Au revoir.